Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé ? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Qu'est-ce qui fait marcher les bébés ? À quatre pattes ? À deux pattes ? On a longtemps pensé que la marche debout du nouveau-né était un réflexe archaïque. Mais que sait-on aujourd'hui de cette marche bipède présente à la naissance ? On a longtemps cru que la marche à quatre pattes était une étape vers la marche bipède à 12 mois. Mais c'est peut-être bien plus mystérieux que cela. Et si le quatre pattes était plus qu'une étape ? Marianne Barburotte est docteure en neurosciences, spécialiste du développement moteur. Elle cherche à comprendre les origines de la locomotion chez l'homme. Biologiste de formation, Marianne Barburotte s'est toujours intéressée au rôle du mouvement dans le développement. Elle a d'abord travaillé sur l'embryon, puis elle s'est tout naturellement intéressée au nouveau-né. C'est en travaillant avec le célèbre professeur Joseph Campos à l'Institut du développement humain à l'Université de Berkeley en Californie que Marianne Barburotte a commencé à s'interroger sur la mobilité des bébés et à considérer la marche comme une deuxième naissance.
Au moment où on devient mobile, à se déplacer de manière autonome, c'est une deuxième naissance. Pourquoi c'est une deuxième naissance ? Parce qu'en fait, c'est le moment où en fait, l'enfant va sortir, littéralement, de la bulle où il était enfermé, où il pouvait faire des actions que, finalement, à la longueur de sa main. La marche, ça commence en fait à 8 mois, d'accord, avec la marche à quatre pattes, en général, chez la majorité des enfants. Et puis ensuite, ça devient de la marche bipède, à peu près à l'âge de 1 an. Okay ? Et cette marche, c'est un événement absolument dingue, puisque ça va donner à l'enfant la possibilité d'être mobile de manière autonome et d'aller explorer son environnement, loin de sa maman, loin de son papa, etc. Il sort de la bulle de sa maman et de son papa et des gens qu'il transporte passivement. D'accord ? Il devient un être mobile. La mobilité, c'est super important pour la survie de toutes les espèces. Ça change tout.
Pour ne pas se faire manger.
Pas se faire manger, pouvoir aussi sexuellement aller trouver un partenaire et trouver sa nourriture. Trois choses essentielles à la vie.
Quand un bébé commence à se déplacer, sa perception de son environnement est bouleversée. Son monde est transformé.
Donc ce bébé-là, il va commencer à explorer en dehors de sa bulle. C'est un moment crucial et on oublie de dire que cette marche, finalement, qu'elle soit à quatre pattes ou à deux pattes, elle va permettre littéralement à l'enfant, non seulement fonctionnellement de bouger, mais de découvrir le monde. Et on sait qu'au moment de cette locomotion, de ce début de la marche, il va y avoir un développement extraordinaire de plein de fonctions psychologiques. Et ça, c'est aussi bien sa perception visuelle de son environnement qui va s'améliorer, son orientation spatiale, et il va être capable également d'avoir plus d'interactions. Et quelque chose qu'on vient de découvrir depuis une petite dizaine d'années, c'est qu'il va y avoir un burst énorme de son langage. Et ça peut se comprendre, puisque bien entendu, la maman va lui parler différemment et à distance. le monde est mis à distance entre l'enfant, la maman, le papa, enfin, etc.
Voilà. Et donc, besoin de communiquer avec ce nouveau monde,
voilà,
sans et l'intermédiaire de la maman.
Absolument.
Et j'ai cru comprendre aussi que ça développait l'empathie.
Ça, c'est encore une autre histoire. Ce qui se passe au moment de début de la marche, c'est qu'il va y avoir des émotions tout à fait nouvelles que l'enfant va recevoir et aussi avoir. Au niveau des interactions avec sa maman, son papa, etc., les gens autour de lui, tout change. Donc il va y avoir la colère, alors qu'avant, pas tant que ça. Et il va y avoir effectivement de l'empathie aussi, c'est-à-dire comprendre ce que l'autre veut dire, non plus tout à fait à côté de lui, etc., l'autre qui faisait les choses pour lui, mais à distance. Du coup, ça augmente effectivement les interactions sociales. Ça, c'est connu, c'est publié, il y a pas mal d'articles là-dessus. Et ça augmente une autre chose qui est extrêmement importante, qu'on appelle l'attention visuelle jointe. Je vais vous expliquer ça rapidement. Avant d'être locomoteur, quand on tend le doigt pour montrer quelque chose au loin à un bébé, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde le bout du doigt. À partir du moment où il est locomoteur, puisque tout change au niveau orientation spatiale, etc., il va être capable de comprendre qu'on est en train de lui parler de quelque chose qui est très loin. Vous imaginez ? Il va comprendre le monde, expliquer. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ou beaucoup moins le cas, en tout cas.
C'est passionnant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous vous êtes intéressée à la marche, Marianne Barburotte. C'est parce que vous saviez donc, tout ça.
En sachant tout ça, en rentrant dans ce laboratoire à Berkeley, en apprenant tout ça, je me suis passionnée, littéralement, pour cet événement qui est la marche. Mais pas au niveau fonctionnel, pour comprendre comment les muscles fonctionnent, etc., mais pour comprendre comment ça se met en place. A basculé le jour où j'ai vu des nouveau-nés qui commençaient à marcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, en fait, la marche, elle émerge effectivement à 8 mois ou à 12 mois, mais on sait déjà chez le nouveau-né qu'ils sont capables de marcher sur une table. Très souvent, d'ailleurs, les pédiatres font ce petit test-là pour voir en fait comment ça se passe, en les prenant sous les bras, hein, et on les amène à toucher à une surface et ils font des pas.
C'est ce qu'on appelle la marche primitive.
Voilà. La marche primitive et la marche automatique, qui est considérée par nombre de personnes comme un réflexe. D'accord ? Sauf que, en m'intéressant un petit peu plus près à cette marche primitive, je me suis aperçue qu'il y avait des anciennes observations, très anciennes, qui montraient que, finalement, le nouveau-né, il était non seulement capable de faire ça, mais il était capable aussi de nager, si on le mettait dans l'eau.
Alors ça, c'est magnifique. Cette vidéo, elle est absolument extraordinaire, elle est incroyable. J'en croyais pas mes yeux.
T'en as plein de... ouais.
C'est un bébé qu'on met dans l'eau, vous pouvez expliquer ce que c'est ?
Alors, en fait, c'est Magro, il y a très très longtemps de ça, qui, au siècle dernier, prend un nouveau-né, alors il n'est pas tout à fait nouveau-né, là, 15 jours, elle le tient à peine sous le menton, elle le met dans l'eau, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit qu'il est capable, littéralement, de nager en faisant du crawl. C'est-à-dire de coordonner parfaitement ses bras et ses jambes, et de se propulser. Ce nouveau-né, il est capable de le faire. Il est capable de le faire dès la naissance.
Nous avons tous vu des bébés nageurs. Mais sur la vidéo que Marianne Barburotte me montre, un bébé de 15 jours, que l'on tient à peine, est allongé dans l'eau, sur le ventre, et nage le crawl avec des mouvements coordonnés des bras et des jambes. Cette vidéo est disponible sur le site internet de France Inter à la page du podcast « Les super pouvoirs des bébés ». N'hésitez pas à la regarder, ces images sont très impressionnantes.
On voit très bien une coordination merveilleuse entre les bras et les jambes, c'est littéralement du crawl. Et on voit à quel point aussi le tronc, les muscles du tronc sont extrêmement importants pour faire des torsions, des rotations avec la tête qui l'amènent à se déplacer et à se propulser dans l'eau. Alors là, il est vraiment dans son élément. Il est en microgravité. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que tout ça, c'est des observations qui datent de très, très longtemps. Mais personne, à l'époque, n'a pensé que ça, c'était autre chose qu'un réflexe. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment bizarre. Et puis là, en discutant avec des gens, dans la maternité, etc., je me suis aperçue qu'il y avait un autre phénomène qu'on oubliait souvent. C'est qu'un nouveau-né, dès la naissance, une heure après la naissance, si on attend, il faut attendre une heure pour qu'il ait bien les hormones qui montent et qu'il se repose juste après la naissance, parce que la naissance, n'oublions pas que c'est une marche, le nouveau-né sort. Il n'y a pas que la maman qui fait les contractions. Le bébé pousse avec ses jambes, pousse avec ses bras et sort.
J'avais jamais pensé qu'on pouvait dire que la naissance était une marche.
Ben si,
évidemment.
Bien sûr que c'est une marche. Et d'ailleurs, c'est une marche, on va dire, du quatre pattes, puisque en fait, il va tourner la tête pour pouvoir sortir, etc. Il bouge lui aussi. Et ça correspond à un effort monumental. C'est pour ça que, quand ils viennent de naître, on les met normalement sur le ventre de la maman, si tout se passe bien, etc. Et ils ne vont pas forcément bouger. Mais si vous attendez une heure après, il faut attendre une heure à peu près. Vous allez voir qu'il va commencer à bouger, à se déplacer et à aller au sein. Donc, pour revenir à notre histoire, un nouveau-né, il sait déjà être mobile. Et donc, du coup, tout ça nous a donné l'idée, à moi et puis mon équipe avec laquelle je travaille maintenant, de regarder qu'est-ce qui se passait là, au niveau de la naissance, de cette mobilité, et de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y avait un lien entre cette marche primitive et la marche future ? Donc, il ne s'agissait plus de dire que c'était seulement un réflexe, mais de dire que c'était peut-être un comportement structuré qui était déjà élaboré à un niveau qui était plus élevé que ce qu'on appelle simplement la moelle épinière, hein, qui dirige aussi la marche, et de savoir comment ça se passait. Voilà.
Voilà comment ça commence.
Voilà comment ça commence.
Marianne Barburotte est docteur en neurosciences, spécialiste du développement moteur. Elle s'est d'abord intéressée à la marche primitive du nouveau-né. Elle a démontré que cette marche bipède présente à la naissance n'est pas, comme on l'a longtemps pensé, un réflexe archaïque. Elle s'est alors demandé quelle pourrait être la relation entre cette marche primitive du nouveau-né et la marche future du bébé vers 12 mois. Elle me raconte étape par étape le déroulement de ses recherches.
La première chose que fait un chercheur, c'est de regarder la littérature.
Ouais.
Bon. Et quand on a regardé la littérature, on s'est aperçu que c'est génial d'avoir des idées, mais il y en a qui les ont eues avant nous. Tant mieux, parce qu'ils ont déjà déblayé certaines questions.
D'accord.
Et dans les questions qu'on avait, c'était de savoir justement qu'est-ce qui se passait au niveau de la continuité entre cette marche primitive et la marche future. Et on s'est aperçu qu'il y avait des équipes comme Bev Ulrich, mais surtout Esther Tellens, qui est très connue aux États-Unis, elle travaille à l'université de Michigan, qui avait fait des expériences très relativement simples et qui étaient d'entraîner des bébés à marcher sur, peut-être pas des nouveau-nés, mais en disons à 4 mois, à les entraîner sur des tapis roulants. D'accord. Et elle s'est aperçue, en les entraînant sur des tapis roulants, que cette marche, elle existait toujours, elle ne disparaissait pas, et que si on l'entraînait, on allait avoir une meilleure marche ensuite, dans le futur. Et la deuxième chose, et là, ça a été vraiment quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'elle s'est dit, personne ne la croyait, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis ses enfants à l'âge de 3-4 mois, où ils ne marchaient plus du tout, bien sûr, parce que c'est vrai que ça disparaît, cette marche. Elle les a mis dans l'eau. Et quand elle les a plongés dans l'eau jusqu'à la ceinture, elle s'est aperçue, c'est incroyable, ils marchent sur le fond du bac où elle les a mis. Donc elle s'est dit, mais donc cette marche, elle ne disparaît jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout le monde croit qu'en fait ça disparaît parce qu'il y a le cerveau qui devient plus développé et que du coup cette marche automatique et réflexe, elle disparaît. Non, elle ne disparaît pas. Elle est simplement masquée parce que le corps du bébé, puisqu'il n'est pas entraîné, qu'est-ce qui se passe ? Il fait la même chose qu'un adulte que vous mettez dans un lit. Hein.
Il grossit,
il fait de la graisse et il perd des muscles. Donc, il ne pouvait plus soulever ses jambes. Donc, elle a vraiment montré que cette marche ne disparaît pas et qu'il y a éventuellement une continuité.
Et ça, c'était quand ?
Ça, c'était 40 ans avant.
40 ans avant vous ?
Ah, 40 ans avant moi.
Donc, vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez la littérature, vous vous rendez compte qu'il y a 40 ans, il y a une femme qui a déjà documenté cette marche en disant qu'elle existait toujours,
ouais,
et que ce n'était pas un réflexe puisqu'elle perdurait,
ouais,
si on mettait en fait le bébé dans un, en apesanteur. Enfin,
c'est pas de l'apesanteur, c'est de la microgravité.
Et c'est pour ça que vous vous dites, Marianne Barburotte, que vous comparez les bébés à des astronautes.
Absolument, parce qu'en fait, moi je dis, si un nouveau-né naissait sur la Lune, à part le fait qu'il ne peut pas respirer sur la Lune, évidemment, il marcherait très bien.
Voilà.
On serait mobiles, nous les humains, dès la naissance.
C'est la gravité, en fait, qui nous plombe.
Le problème, c'est la gravité, exactement. Donc, avec la gravité, un enfant va perdre les capacités au niveau motrice de ce qu'il savait faire en microgravité à l'intérieur du ventre de sa maman. Ça, c'est connu, d'accord? Donc, il va perdre cette marche. D'ailleurs, entre parenthèses, il ne perd pas que ça. Il perd aussi beaucoup de ses mouvements. Ça va être beaucoup moins facile pour lui d'attraper des objets, etc. C'est encore une autre histoire, mais que je pourrais vous raconter. Mais on a montré que les nouveau-nés étaient capables d'attraper des objets si on les mettait dans l'eau.
Ah oui, vous l'avez fait, ça vous...
Mais bien sûr. Alors, on ne l'a pas publié, mais c'est une expérience que vous pouvez faire vous-même. Et vous allez voir qu'il va être capable d'attraper des objets. C'est génial à voir.
Les bébés sont exceptionnels si on sait leur poser les bonnes questions, aime répéter Marianne Barburotte. Poser les bonnes questions, cela signifie qu'il faut remettre les nouveau-nés dans le contexte le plus proche de ce qu'ils ont connu in utero, pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Les nouveau-nés ne sont pas incompétents, ils sont simplement confrontés à un monde nouveau. Marianne Barburotte me rapporte une expérience faite au siècle dernier par le neuropédiatre Albert Grenier. Albert Grenier a assis des bébés de 10 jours en maintenant fermement leur tête et leur tronc pour stabiliser leur position assise. Et il a découvert que dans ce contexte, ils n'ont plus à lutter contre la gravité pour maintenir leur posture. Ils peuvent donc libérer leur mouvement des bras et attraper des objets. Cette expérience contredisait tout ce que l'on pensait savoir sur la mobilité des nouveau-nés.
Bien sûr que le nouveau-né n'a pas la capacité de faire des aussi beaux mouvements complets, etc., qu'un adulte. On est loin de ça. Mais il a déjà les circuits à l'intérieur de lui, ce qu'on appelle des circuits neuromoteurs dans le langage, pour faire ces choses-là. On appelle ça primitif. Et la grande différence avec ce qui était connu ou dit pendant longtemps, c'est qu'il n'y a pas de coupure. Ce sont vraiment des précurseurs moteurs de ce que l'enfant et l'adulte fera plus tard.
C'est ça. C'est pas un réflexe. Il n'y a pas de coupure. Ça perdure. Ouais. C'est juste les conditions qui changent.
Exactement. Et c'est ce qu'on appelle, moi, ce que j'ai l'habitude d'appeler le contexte optimal. C'est-à-dire que si vous voulez voir ce que le nouveau-né est capable de faire, il faut le mettre dans un contexte optimal pour le voir. Et ça, c'est très, très important. Aussi bien pour les adultes que pour des enfants handicapés. Pourquoi ? Parce que si vous avez un enfant handicapé ou un adulte qui n'est pas capable de faire quelque chose, ça ne veut pas dire, quand vous le mettez dans un contexte qui est classique, qu'il n'est pas capable. Mais il faut le mettre dans un contexte optimal pour qu'il puisse exprimer ces choses-là.
Et donc vous, votre travail, ça a été de mettre des nouveau-nés et des bébés dans des contextes optimaux pour voir les capacités que conservaient ces nouveau-nés et ces bébés,
voilà.
C'est ça ?
Absolument. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a recherché les conditions optimales de microgravité ou en tout cas de facilitation pour pouvoir voir la panoplie la plus importante de ce qu'un nouveau-né savait faire au niveau moteur. Nous, on s'est focalisé sur la marche parce que c'était notre passion depuis le début, etc., et qu'on se posait ces questions-là. Mais on pourrait imaginer de travailler là-dessus au niveau moteur dans différents domaines. J'ai des collègues qui font d'autres choses. Voilà.
Après s'être interrogée sur la marche primitive bipède présente à la naissance, Marianne Barburotte a cherché à savoir si le nouveau-né était aussi capable de marcher à quatre pattes. Mais comme il semblait difficile de plonger des nouveau-nés dans l'eau pour les observer nager le crawl ou de les mettre sur le ventre de leur mère pour faire des expériences à la maternité, Marianne Barburotte a décidé de les mettre sur un simple matelas pour voir ce qu'ils étaient capables de faire. Écrasés par la gravité, la tête trop lourde, les bras bloqués, les nouveau-nés n'avançaient pas. Alors, comment faire pour pouvoir observer le quatre pattes du nouveau-né à la naissance ? Marianne Barburotte et toute une équipe de chercheurs et d'ingénieurs ont eu une idée folle.
Il faut dire qu'on a beaucoup travaillé, à plusieurs. C'était très compliqué. On s'est mis avec des gens qui travaillaient aussi bien sur les odeurs, comme Benoît Schall, des gens qui travaillaient sur la motricité chez l'adulte et le sport même, comme David Anderson à San Francisco State University, des gens qui travaillaient sur le rythme, comme Joël Provasi, des gens qui travaillaient sur la construction, engineering, etc. Et on a fini par trouver que ce qu'il fallait faire, bien sûr, c'était surélever le tronc du bébé avec une petite pente en hauteur. Et bien sûr, il fallait créer une plateforme à l'avant pour qu'il repose sa tête. Parce qu'un nouveau-né, il a une tête très, très lourde. Ça correspond à plus d'un tiers
de
son poids. Donc, c'était très lourd. Donc, on a fait une plateforme à l'avant, comme ça. Et puis, une petite planche qui, donc, a une pente pour que les épaules soient plus en hauteur que son bassin. Le bassin du nouveau-né, bien sûr, il est sur la table, puisque là, il va falloir qu'il active ses jambes, etc. Et il est allongé sur cette petite planche. Et puis, on s'est dit, il va falloir le faire bouger, mais il va quand même falloir le aider un peu, parce que là, il va avoir du mal quand même à pousser. Alors, on a réfléchi, on s'est dit, il nous faut mettre des roulettes là-dessous. Mais il nous faut mettre des roulettes qui soient très fines et qui puissent aller dans toutes les directions. Donc, on a mis plein de petites roulettes. L'idée était de prendre les petites roulettes, vous savez, qu'on prend pour déplacer nos meubles quand on déménage. On a fait ça. Et puis après, on a trouvé une couturière, on a discuté comment l'envelopper, etc. Et donc, on lui a fait...
Comment le faire tenir sur cette planche à roulettes,
bien sûr,
en fait.
Absolument, parce qu'on n'allait pas le laisser tout seul sur sa planche à roulettes. Donc, on a trouvé un espèce de petit vêtement, dont le fond, en fait, c'est comme un gilet qu'il enfile, qui est scotché littéralement sur, on va l'appeler maintenant, un mini-skateboard. Et à l'avant, on a mis juste des branches pour que, si jamais l'enfant allait trop vite, il ne puisse pas se renverser. On était un peu optimiste. On s'est dit, il va peut-être pas aller si vite que ça. Eh, si.
Combien de temps vous avez mis à concevoir ce mini-skate pour nouveau-né? On est d'accord, on parle de nouveau-né?
Absolument. Alors, on travaillait, bien sûr, j'ai oublié de le dire, sur des nouveau-nés typiques qui viennent de naître à la maternité et qui ont 2 jours de vie.
2 jours de vie. Donc ça, c'est un skate pour les bébés de 2 jours de vie.
Absolument. On a travaillé là-dessus et on a peut-être mis 6 mois. 6 mois à 1 an pour développer ce système-là, pour faire en sorte qu'il soit le plus adapté à l'enfant.
Et c'est génial, c'est un peu fou.
Absolument, c'est un projet un peu fou. Et c'est un projet encore plus fou quand on allait dans la maternité proposer aux mamans qui venaient d'accoucher de les descendre dans notre baby lab qu'on a à l'intérieur de la maternité et de tester leur bébé. On leur expliquait sur un skateboard. On dit, pardon, qu'est-ce que vous voulez faire à mon bébé? Et donc, on a expliqué qu'en fait, les bébés bougeaient très bien à la naissance et ça a franchement piqué leur curiosité à beaucoup de mamans et de papas. Alors là, les papas étaient très, très enthousiastes aussi. Et donc, on a eu pas mal de succès, en fait, des mamans et des papas qui descendaient avec leur bébé pour tester leur enfant. Et là, dans notre Baby Lab, on a un gros avantage, c'est qu'on a des caméras, on appelle ça infrarouge, qui permettent de mesurer et analyser les mouvements en 3 dimensions. Donc, une fois qu'on les avait mis sur notre petit mini-skate, on a regardé comment ça se passait. L'idée était, est-ce qu'ils font vraiment du 4 pattes, c'est-à-dire la coordination entre bras et jambes, etc. Qu'est-ce qui se passe avec leur tête? Quelle distance ils peuvent? Et puis après, les idées, elles sont venues. Donc, on a montré ça, on a testé, c'était une thèse d'un de mes étudiants, on a testé plus de 100 nouveau-nés comme ça. Donc, c'est quand même un travail énorme.
Et ils avancent. Mais ils avancent vraiment. Pas comme une tortue.
Non, ils avancent vraiment. Ils poussent sur leurs jambes, mais ils utilisent leurs bras aussi. Et ils avancent, ils peuvent avancer. Alors, si c'est sur 1 minute, ils vont peut-être avancer 1 mètre, quelque chose comme ça. Si vous les laissez plus longtemps, ils vont avancer plus longtemps. Nous, on faisait juste 1 minute, parce que c'était ce qui nous intéressait, c'est de regarder l'analyse juste des mouvements. Mais on est allé plus loin, évidemment, une fois qu'on a eu ça. On s'est dit, c'est chouette, mais alors, est-ce que par hasard, ils avanceraient différemment si on leur mettait la voix de la maman, si on leur mettait la langue de la maman, si on leur mettait l'odeur de la maman, et si on leur mettait même la vision, etc. Et donc là, on est parti faire plein d'expériences. avec
beaucoup de plaisir, non?
Ouais, c'était enthousiasmant. C'était vraiment un moment de grande... questions, réponses, enthousiasme, etc. Et on a testé, je pense, à peu près plus de 400 à 500 nouveau-nés, comme ça. Et on a montré, on a publié pas mal d'articles qui ont montré que, effectivement, l'odeur de la maman va améliorer l'efficacité de la mobilité de son enfant. Ça, c'est un truc extraordinaire.
C'est-à-dire, il avance plus vite?
Il avance mieux. il avance mieux, il fait les meilleures coordinations, etc. Il va plus loin, exactement, enfin plus vite, comme vous dites. Ouais. On a montré la même chose avec la langue. Quand je dis la langue, c'est le langage, pardon. C'est-à-dire qu'à ces nouveau-nés français, on leur a fait écouter l'anglais et on leur a fait écouter du français. Eh bien, écoutez, avec l'anglais, ils ne font pas grand-chose. Hein. Mais par contre, avec le français, hop, ils avancent et ils vont vers le haut-parleur qui émet la voix française. Attention, ce n'est pas la voix de la maman, hein. C'est une voix française qui n'est pas celle de la maman, forcément. Donc, c'est vraiment le langage. Donc, on confirme qu'à la naissance, vous vous rendez compte, c'est ça faire. Ils reconnaissent, on le savait déjà avec d'autres expériences, bien sûr, sur le langage, mais là, on le confirme avec la mobilité même, à la naissance. C'est un truc de... Pour nous, c'était incroyable. Et tout dernièrement, on a fait des expériences aussi avec la voix de la maman, qui s'avère être bien meilleure que la voix d'une autre mère. Ça, c'est une autre question. Et donc, franchement, le nouveau-né à la naissance, il va savoir où il faut aller. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça, maman.
Dans cet épisode, nous avons compris que les bébés savent nager le crawl et marcher à quatre pattes dès la naissance. Et si le quatre pattes n'était pas qu'une étape vers la marche bipède? Et si le quatre pattes était crucial pour la mobilité des êtres humains? Ce sont les questions auxquelles Marianne Barburotte répondra dans le prochain épisode. Les super pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.